Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Nous discutons du redoublement. Lorsqu'il était encore ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre en France, a déclaré qu'il conviendrait de revoir le tabou du redoublement, notamment pour remédier aux mauvais résultats des élèves français dans les évaluations de PISA de l'OCDE en maths et en français. C'est-à-dire le fait que cette ancienne pratique est très fortement diminuée en France, finalement, depuis les années 2000. Peut-être qu'il faudrait revoir les choses, notamment à l'école primaire ou au collège. Aujourd'hui, en tout cas, la question fait toujours débat, bien qu'une majorité d'études internationales démontrent que le redoublement n'a pas d'effet réel sur les performances scolaires à long terme. Dans certains pays comme le Japon, l'Islande, la Norvège, le redoublement n'existe quasiment plus. On va en discuter avec nos invités. Jonathan Dupin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant spécialisé dans les systèmes éducatifs, président de l'AFECTI, c'est l'association qui regroupe des experts de la coopération internationale et de l'aide au développement. Et on verra avec vous ce que coûte en fait le redoublement, notamment dans les budgets en Afrique francophone de l'éducation nationale. Nous sommes aussi en liaison avec Benoît Galland, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes en direct de Bruxelles aujourd'hui. Nous serons aussi en ligne avec le psychologue sénégalais Ibrahima Girou, qui nous dira comment éviter que le redoublement n'affecte l'estime de soi, la confiance des élèves. Et quant à vous, les voisins et les voisines, est-ce que vous avez déjà redoublé une classe durant votre scolarité? Comment vous l'avez vécu? Et sinon, est-ce que pour vous, le redoublement en tant que parent, en tant qu'enseignant, c'est une seconde chance ou un découragement? Le redoublement est-il efficace pour aider les élèves en difficulté? Vos points de vue d'enseignants, bien sûr, et de parents nous intéressent au 33-7. 64, 45, 51, 41. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. Contactez-nous dès maintenant.
RFI. 8 milliards de voisins.
Bonjour RFI.
J'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
RFI 7 sur 7 et nos émissions à réécouter 24 heures sur 24 grâce à l'appli RFI Pure Radio, bien sûr, si vous n'avez pas le temps d'écouter aujourd'hui en direct. Écoutez tout de suite des témoignages d'élèves redoublants en France, en collège et lycée. C'était en 1988, il y a près de 35 ans, une époque où le redoublement était très courant et pouvait même concerner plus de 30% des élèves dans certains établissements sur la totalité d'un cursus scolaire.
En décembre, j'ai demandé le redoublement. J'ai parlé avec mes profs, tout ça, on s'est mis d'accord, puis j'ai redoublé.
Et ta deuxième seconde?
Ça a été mieux.
Ma première année de troisième, j'ai mal travaillé et tout. On a tout le temps rigolé, donc c'était obligatoire que je redouble. Je voulais tellement venir en seconde pour continuer. Ben, j'ai dit ouais, je redouble ma troisième et tout. Y a pas de problème.
J'ai fait deux secondes de première.
Tu fais toutes les classes comme ça en...
Je sais pas si ça continue la terminale, je la ferai deux fois aussi.
Moi, je voulais redoubler, mais c'était le redoublement qui n'était pas jugé nécessaire.
Je pensais passer en terminale facile.
Ouais.
Bon, parce que je voyais qu'à travers la classe, j'étais pas mauvais. Puis bon, bah, on m'a dit, tu redoubles. C'était un gros choc.
Bah, j'avais peur, parce que je savais pas dans quelle classe que j'allais tomber et tout.
Moi, je pense que ça ne m'a absolument servi à rien. J'ai pris ça comme étant une sanction.
Je suis parvenu à avoir des notes correctes parce que je redoublais, quoi. C'est tout. Mais non, je pense pas que ça soit... Enfin, pour moi, ça n'a pas été profitable.
Le redoublement n'est pas une solution en soi. Pour certains élèves, c'est une bonne solution. Pour d'autres, elle peut être très mauvaise. Je crois que tout dépend de la façon dont l'élève réagit face à cette situation de redoublement. Il y a des élèves qui demandent le redoublement. Parce qu'ils en sentent le besoin.
Moi, je l'ai vraiment senti comme quelque chose de très, très positif. Parce que j'ai pris confiance en moi et puis... Et puis bon, bah, c'est pas le bagne de redoubler. Je veux dire, au début, c'était triste parce qu'on se dit, mais j'ai loupé quelque chose. Et en fait, non. On apprend plus par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport au boulot.
Benoît Galland, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages qui datent d'il y a 35 ans, une époque où, dans un pays comme la France, le redoublement était beaucoup plus courant, donc moins stigmatisé, hein.
tout à fait. Bah, c'est très, très intéressant. Et en fait, ça montre la diversité des expériences que les élèves peuvent avoir face au redoublement. Et finalement, la difficulté aussi pour les chercheurs à savoir comment est-ce qu'on peut faire du tri là-dedans, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ça dépend juste de l'élève, mais de quoi chez l'élève? Et donc, les chercheurs, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est décaler un peu la question. C'est de se dire, en fait, on ne peut pas se contenter de demander l'avis des élèves qui ont redoublé. Ce que les chercheurs ont essayé de faire, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce que ça changerait si le même élève, on le fait redoubler ou au contraire, on le laisse passer dans l'année suivante. Et donc, c'est vraiment cette question-là, en fait, auxquelles les chercheurs ont essayé de repenser, de répondre. C'est de se dire, okay, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens qu'on prenne cette décision de redoublement ou pas.
Et alors, quand on regarde finalement deux groupes d'élèves avec les mêmes notes, les mêmes mauvaises notes, on va dire entre guillemets, hein, si ils sont, ils devraient en principe redoubler, si ceux qui passent dans la classe suivante, malgré leurs notes très, très limites, et ceux qui redoublent, finalement, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit dans la plupart des études ?
Ben, on voit que quand on essaye de réfléchir comme ça, c'est-à-dire en effet, comme vous l'avez expliqué très bien, en prenant des élèves qui sont vraiment les plus semblables possibles, et puis, il se trouve qu'en fonction de la classe dans laquelle on est, de l'école dans laquelle on est, il y en a certains ou certaines pour lesquelles on va décider de les faire redoubler, d'autres pas. Là, on a une synthèse très récente de plein d'études dans plein de pays, parce que toutes les premières études étaient surtout basées sur les États-Unis. Ici, on a une grande diversité, y compris certains pays africains, où il y a des études de ce type-là, et qui constatent que globalement, ça ne fait pas vraiment de différence. Donc, c'est un petit peu comme si cette année en plus, elle ne servait pas à grand-chose.
Jonathan Dupin, on redouble davantage en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone, encore aujourd'hui.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a une différence qui apparaît entre des systèmes éducatifs qui ont plutôt une tradition, on va dire, francophone ou française, et des systèmes éducatifs donc plutôt d'une tradition anglo-saxonne ou d'influence scandinave, les différences sont statistiquement significatives. On ne se trompe pas en disant qu'il y a quand même une différence et que vraisemblablement, au-delà d'organisation, il y a aussi un aspect de culture, de l'acte de l'éducation et de la manière de gérer les difficultés, de récompenser et de stimuler.
Quand un ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, en l'occurrence lorsqu'il était ministre de l'Éducation, mais aussi Jean-Michel Blanquer, qui a été ministre de l'Éducation en France durant le premier quinquennat Macron, se penche sur l'éventualité de revenir vers plus de redoublement, finalement, Benoît Galland, ça répond à l'attente de qui ? Des parents, des enseignants qui en ont marre d'enseigner dans des classes de niveau très disparates, c'est censé faire plaisir à qui ?
Alors, je suis pas politologue, mais en effet, en tout cas, on peut revenir à l'idée même de départ du redoublement. Enfin, alors comme M. Dupin vient de le dire, je pense que c'est très important de bien comprendre qu'il y a d'énormes variations entre les systèmes éducatifs dans le taux de redoublement. On passe de 0 à plus de 30%. Des élèves d'un même âge, à 15 ans par exemple, qui ont doublé. Donc tout le monde n'utilise pas le redoublement et tout le monde n'utilise pas avec la même intensité. Donc on est quand même dans les pays francophones avec une intensité de redoublement qui est supérieure à la moyenne. Et c'est vrai aussi, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Europe. Et on voit aussi des pays dans lesquels, qui ont été envahis par exemple par les Français comme l'Espagne ou le Portugal à certains moments, à la période napoléonienne, mais on voit en fait aussi ce taux de redoublement plus élevé. Alors ça part de l'idée qu'en fait en faisant recommencer les élèves, on va les aider, mais contrairement à ce que j'ai entendu dans un témoignage, ça ne dépend pas que de l'élève, ça dépend aussi de ce qu'on lui propose.
Bien sûr.
Maintenant, à qui ça fait plaisir ? Je pense, en tout cas, c'est une tentative de répondre au fait qu'on a des élèves avec des niveaux assez différents dans la classe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Avec des enseignants qui disent « mais cet élève n'a rien à faire dans ma classe avec le niveau qu'il a ». En fait, ça peut apparaître aussi comme une analyse de bon sens de dire ça quand on est enseignant.
Oui, totalement. Et donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre le problème dans le débat sur le redoublement, c'est que ce que les scientifiques peuvent apporter, c'est dire « est-ce que finalement, c'est une mesure, une intervention éducative qui apporte quelque chose au bénéfice des élèves ?» mais qu'est-ce qu'on fait avec des élèves qui sont en grosse difficulté, avec le fait que j'ai une classe, avec des élèves qui ont des niveaux extrêmement diversifiés, et puis, comme ça a déjà été mentionné aussi, avec cette idée que finalement, le redoublement, c'est un peu, dans notre culture francophone en tout cas, c'est un peu la punition pour les élèves ou la sanction pour les élèves qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, que ça soit parce qu'ils n'aient pas travaillé, mais voire aussi parce qu'ils ont été perturbateurs, ils ont eu des comportements inappropriés à l'école. Ouais. Donc il y a tout ça qui se mélange un petit peu dans ce débat-là. Et je pense qu'il y a des vraies questions. C'est-à-dire que la question de l'hétérogénéité des élèves, c'est une vraie question.
Ouais. Et alors, vous le disiez, hein, finalement, quand on regarde un peu les différents systèmes éducatifs dans le monde, ça va de zéro redoublant à 30% d'élèves de 15 ans qui ont déjà redoublé. Pour voir un peu comment se situe la France, hein, en 2003, on avait près de 4 élèves de 15 ans sur 10 qui avaient redoublé au moins une fois. Et puis, le ratio tombe à seulement 1 sur 10 aujourd'hui, 10% des élèves qui ont redoublé au moins une fois à l'âge de 15 ans, selon l'enquête PISA de l'OCDE. Ce qui veut dire que plus on diminue le nombre de redoublants, et je pense que c'est la même chose à peu près en Belgique, hein, ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, le redoublement, il est limité aux élèves en très grande difficulté scolaire.
Sans doute, oui. Donc, la France est assez exceptionnelle à ce niveau-là dans la période récente. Il y a vraiment une baisse très, très forte et très continue du taux de redoublement depuis les années 2000. En Belgique, malheureusement, on n'a pas cette diminution-là. Donc, on a encore plus de 30% des élèves de 15 ans qui ont déjà doublé au moins une fois. Donc là, on peut dire qu'en Belgique, ça ne reste pas très, très ciblé. Ce qu'on constate, c'est que même si c'est de plus en plus ciblé, il y a quand même encore des formes d'inégalité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que l'origine sociale va être déterminante aussi. À niveau de compétences égales des élèves, quand on vient d'un milieu plus défavorisé, on a un peu plus de risques qu'on prenne une décision de redoublement.
Mais le pacte pour un enseignement d'excellence en Belgique s'est engagé à faire baisser le taux de redoublement de moitié d'ici 2030. Donc, il va falloir à un moment donné qu'il y ait des mesures.
Oui, oui, tout à fait. Pour l'instant, ça évolue doucement, mais on va dans ces directions-là, mais on est encore très, très loin de l'objectif.
Ce sont les enseignants qui freinent ?
Non, c'est compliqué. Alors, je pense que les débats en France sont révélateurs de ça aussi. C'est que comment est-ce qu'on passe d'un système où finalement la façon par défaut un peu de gérer cette différence de niveau entre les élèves, c'était de faire doubler, à un système où on dit bon, en fait, il faut trouver d'autres façons d'aider les élèves qui sont les plus en difficulté. Ou de gérer les élèves qui sont les plus difficiles à gérer. Et ce n'est pas simple, et ça demande probablement à la fois des moyens et de l'accompagnement pour passer d'un système à l'autre.
En Afrique, est-ce que le Covid, avec des fermetures massives d'écoles, a eu un effet Est-ce que ça a fait augmenter les taux de redoublement ou pas, Jonathan Dupin ?
Alors, il y a eu une certaine augmentation des taux de redoublement dans des pays comme le Sénégal ou le Ghana sur ces dernières années qui étaient très bas et qui sont plutôt maintenant autour de 10%, on va dire, au primaire. Ensuite, il est assez difficile de capter aujourd'hui les effets du Covid sur les trajectoires des élèves dans les systèmes éducatifs en Afrique, notamment à cause d'une certaine inertie, un peu fragilité des systèmes statistiques sur lesquels, en général, les données qui sortent portent sur l'année précédente, l'année ou voire l'année encore antérieure et peuvent avoir une certaine fragilité aussi à court terme avant d'être reconsolidées, etc., sur du moyen terme. Donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir vraiment des données sûres, mais le fait est que un certain nombre de systèmes éducatifs ont vu leurs écoles fermées pendant longtemps. Donc, s'il n'y a pas eu d'effet, c'est qu'il y a eu un choix administratif, d'une certaine manière, de ne pas faire autant redoubler à cause de ce que les élèves ont vécu.
Et puis, il y a les décrochages scolaires aussi, hein, les élèves qui disparaissent. On va bien sûr en discuter. Jonathan Dupin et Benoît Galland, vous restez avec nous. Le redoublement est-il efficace pour venir en aide aux élèves en difficulté ? Sinon, quelles alternatives au redoublement ? Évidemment, vos témoignages de parents, vos points de vue d'enseignants nous intéressent au 33 7 64 45 51 41. On donnera la parole à un auditeur de l'éducation, inspecteur de l'éducation au Sénégal, qui sera en ligne avec nous dans quelques instants. On se retrouve juste après la rappeuse catégorique. Regardez-moi chez 8 milliards.
Venir, même une boule de cristal aurait pas pu le prédire. Je suis venu de là où on nous voit pas venir. Le cerveau dans les nuages, le cahier plein de rimes. Hors normes, hors stage. Madame, votre fille s'ennuie à l'école. Un peu blanche, un peu noire. Garçon manqué qui ne veut pas suivre l'école. Mon destin devait m'appartenir. Je l'ai compris quand j'ai su que les morts ne pouvaient pas revenir. Adieu les pères, adieu les proches. Ici c'est l'enfer, mais pourtant je me sens béni. Je suis sur les routes, sur scène, non-stop dans mon esprit. En connexion constante, on a rien sans rien, on devient ce qu'on pense. C'est Dieu qui donne, mais c'est l'homme qui doit prendre. Ça y est, on paye l'addition, même si elle est salée.
ça y est, c'est maintenant qu'ils veulent s'allier. Ce sera non, non, les vrais sont là depuis des années. Chacun son temps et je suis toujours à l'heure, ça c'est mon côté suisse. Maman, regarde, moi je vole. Internet fait croire que je débute, je suis passionné, je lutte. Rester humble, c'est obligatoire. Le sommet de la gloire, c'est le début de la chute. Aussi, trop ça, bébé, je suis juste moi-même. De quoi t'as peur? Je suis hostile quand on me froisse. La fleur au fusil, je suis en guerre à contre-coeur. Africaine qui a perdu ses racines, je m'en souviens chaque fois que c'est la semaine contre le racisme. On maîtrise la langue de Molière, ma salive coûte cher et ma sueur encore plus. Devant 10 ou 1000 sur scène, je m'en porte. Pas de playback, je rappe pas, moi je performe. J'aime cette merde plus que moi-même encore. Dans la cabine, que des traces de débiles sans arrêt. Je m'arrêterai quand j'aurai plus de bouche pour parler. Produit à marcher, envisage même pas de comparer. Nous ça fait longtemps qu'on fait la queue dans le fond du tunnel. La lumière est proche, je suis avec la team, on peut plus reculer. Maman regarde, moi je vole.
Écoutez, 8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI. Quelle efficacité pour aider les élèves en difficulté scolaire? Est-ce que le redoublement est une seconde chance ou au contraire plutôt une arme de découragement scolaire? Et qu'en pensent les enseignants, les parents? Bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On donne la parole à Arfang qui nous appelle de Thiès au Sénégal. Bonjour Arfang.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Soyez bienvenus, on vous écoute. Arfang
Seck, inspecteur de l'éducation, chef de la circonscription scolaire de la ville de Thiès, au Sénégal. Emmanuel, le thème est très intéressant et il est actuel. Au Sénégal, il a été toujours encadré le redoublement par des dispositions réglementaires qui tiennent en compte l'âge des enfants. Car il y a des limites d'âge, comme vous le savez, pour se présenter aux différents examens, le certificat, l'entrée en sixième. Le BFM, c'est pour aller en seconde. Et la limite d'âge pour l'entrée en sixième, c'est 14 ans. L'orientation en seconde, c'est un maximum de 19 ans. Mais depuis l'avènement du curriculum de l'éducation de base à l'élémentaire, il est interdit, le redoublement est interdit, intra-étape. C'est-à-dire quand nous sommes entre le CI, le cours d'initiation, et le CP, il est interdit. Entre le cours élémentaire première année et le cours élémentaire deuxième année, il est interdit. Entre le cours moyen première année et le cours moyen deuxième année, il est interdit. À l'intérieur d'une étape, il n'y a pas de redoublement. On s'est dit, si vous n'avez pas fini de régler des questions, vous le réglez dans le niveau suivant. Maintenant, il est juste permis de faire des redoublements inter-étapes. Et là, c'est limité à un dixième de l'effectif de la classe. Pour le moyen secondaire, c'est apparu dans le document des normes standards de qualité, et le redoublement est limité à 5% de l'effectif. Bon, on s'interroge sur son efficacité. Alors, il y a une certaine gêne.
Ça veut dire que c'est pour ça que le Sénégal a diminué le nombre de redoublants?
Bon, c'est encadré et c'est limité. C'est limité autant que faire se peut, parce que dans le cadre de la pédagogie de la réussite, on cherche à ce que tous les élèves réussissent autant que faire se peut. Maintenant, pour aller vers le redoublement, c'est limité, c'est encadré. Si l'on s'interroge dans son efficacité, parce que parfois il y a une certaine gêne, une certaine vexation vis-à-vis de l'élève, à l'idée de ne plus être avec ses camarades, mais avec des autres plus jeunes qui nous suivaient. Mais c'est encore beaucoup plus gênant quand on se retrouve parfois dans la classe avec un petit frère ou une petite sœur, dans la même classe ou dans le même niveau. Alors là, ce sont des considérations psychologiques, les psychologues peuvent développer sur ça, et ça constitue des blocages. C'est ce qui fait qu'assez souvent, ce sont les passants qui performent le plus. Ils ne se laissent pas damer le pion par les redoublants. Il n'y a que quelques rares fois où on voit des redoublants qui ont des performances beaucoup plus intéressantes. Et s'il s'agissait véritablement de prendre l'enfant et de le récupérer pour le remettre encore dans le rythme, là, c'est intéressant.
Mais ça, ça veut dire.
Parfois, ce n'est pas tout le temps le cas.
Ça veut dire, Arfang, que vous avez clairement, en tant qu'inspecteur de l'éducation, dans la circonscription de Thiès, vous avez clairement mission de faire appliquer ces règles, de bloquer les demandes de redoublement. Mais que vous disent les enseignants?
Bon, on ne les bloque pas. À la fin de l'année, nous recevons les propositions de passage. Dans chaque école, chaque classe, le maître fait des propositions. Le directeur, le chef d'établissement vise et nous, on nous envoie ça. Au niveau de l'instruction, les inspecteurs sont chargés de travailler et de vérifier le respect de ces dispositions-là et d'aménager. Ainsi, c'est avant la rentrée des classes que nous retournons ça au directeur pour que les enseignants prennent les nouvelles données.
C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous ressentez un agacement chez les enseignants lorsqu'ils récupèrent des élèves qui n'ont pas le niveau dans leur classe? Parce qu'on n'avait pas le droit de les faire redoubler, suivant la réglementation que vous venez d'expliquer.
Oui, naturellement, pour tout enseignant, il a envie d'avoir des élèves qui performent. Mais c'est en ce moment qu'ils doivent faire prévaloir leur métier, leur niveau et leur performance. Prendre des enfants qui ont des difficultés et les faire sortir du lot. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça notre mission. En tout cas, moi, je voudrais à ce niveau vous parler de ce qu'on appelle l'effet maître. Parce qu'un élève peut ne pas bien suivre dans un cours préparatoire CPA ici. On le fait sortir, on l'amène juste à côté dans un cours préparatoire B,
CPP. Avec un autre enseignant avec lui, ça marche, ouais. Bon, c'est un peu une façon de...
L'environnement.
Oui, bien sûr, Arfang, je vous comprends. Mais moi, là, je me mets un peu à la place des enseignants qui écoutent peut-être cette émission. Et vous rebasculez un peu quand même la responsabilité de la réussite des élèves sur les enseignants. Or, on le sait bien, il n'y a pas non plus que l'effet enseignant. D'ailleurs, je m'adresse à vous, Jonathan Dupin. Dans les systèmes éducatifs sur le continent africain, il y a le nombre de manuels scolaires qui comptent dans la classe. Il y a beaucoup de choses. Le nombre d'élèves dans la classe...
Bien sûr, l'effet maître, comme votre auditeur le mentionnait, est là, mais évidemment, il y a d'autres éléments autour des ressources dont disposent le maître et l'élève pour travailler.
Et la formation des enseignants.
Et la formation des enseignants aussi, qui, d'une certaine manière, rejoint ce qui est évoqué là, l'effet maître. Oui.
Merci en tout cas à vous, Arfang, de nous avoir appelé en tant qu'inspecteur de l'éducation au Sénégal. On donne la parole justement maintenant à un enseignant, professeur de français, Ézéchiel. Bonjour à vous, Ézéchiel.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes près de la frontière avec le Ghana, vous êtes en Côte d'Ivoire à Agnibi-l'Écrou et vous êtes professeur de français. Vous avez plusieurs classes, hein. Vous avez une classe de 4e, une classe de 3e.
Évidemment, oui madame.
Vous avez combien de redoublants alors dans votre classe de 4e?
La classe de 4e, on a 6 redoublants.
Sur combien d'élèves?
34. Maintenant, la classe de 3e, malheureusement, on a 24 redoublants.
24 redoublants sur combien?
24 redoublants sur 34 également.
Oh, ah oui, alors là, on atteint des sommets, là, parce que vous avez plus de la moitié de votre classe en troisième qui sont des redoublants, 17% de redoublants en classe de quatrième. Pourquoi vous avez autant de redoublants, Ézéchiel?
Bon, le niveau des enfants n'est pas trop bon, madame. Vous comprenez? En ce qui concerne le niveau de troisième, là, c'est très difficile. D'abord, ils ne maîtrisent pas trop les choses. Et il faut prendre le temps de les former. Ils ne sont pas bien formés. Ils se sont retrouvés par hasard souvent. Et le niveau est très bas. Et donc, le BPC aussi est un peu souvent complexe. Il faut les faire ici. Ce n'est pas facile, madame.
En somme, vous faites redoubler pour que ce ne soit pas l'hécatombe au brevet.
Oui. Oui, oui.
Et les parents, que disent-ils?
Les parents sont souvent mécontents. Ils pensent que c'est la faute des enseignants, mais ce n'est pas la faute des enseignants aussi. La responsabilité des parents aussi et des élèves eux-mêmes. D'accord. Des élèves qui n'étudient pas, souvent, c'est difficile de les faire ici, madame.
Et alors, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pensez du redoublement vous-même?
Moi, je pense en tant qu'enseignant, le redoublement est très bon parce que ça permet de rattraper le niveau raté, madame. Ça permet de rattraper le niveau. Ça, c'est très important, madame. Mais quand un enfant n'a pas de niveau, c'est très difficile pour lui de lui faire comprendre des trucs. Mais quand il a un bon niveau, c'est très bon.
Et dans votre classe de 3e, vous avez plus de la moitié de vos élèves qui sont des redoublants. Est-ce qu'ils travaillent mieux que ceux qui ne sont pas redoublants?
Ils travaillent mieux parce qu'ils comprennent mieux leurs problèmes, puisque ceux qui viennent d'arriver. Ils comprennent mieux par rapport à ceux qui n'ont pas encore fait la 3e, qui viennent de faire pour la première fois.
Bon. Alors, vous avez un avis très différent de l'inspecteur de l'éducation au Sénégal là-dessus. Ézéchiel, vous êtes dans une école privée ou publique?
Une école privée.
Ça veut dire que les parents, quand vous leur annoncez que leur enfant va redoubler, ça veut dire qu'ils doivent payer une année supplémentaire de scolarité. Ils ne doivent pas être très contents,
c'est ça.
Vous avez des pressions parfois, des parents qui peuvent vous proposer peut-être un petit arrangement?
Oui, on a l'impression des parents, mais on n'essaie pas ça. Souvent, l'éducation, c'est bon que l'arrangement, à quoi ça peut servir. Donc, on a l'impression des parents, mais malheureusement, on n'essaie pas ça.
Vous ne cédez pas aux propositions d'arrangement?
On n'essaie pas aux propositions d'arrangement, madame.
Merci à vous, Ézéchiel, en tout cas, d'avoir été en ligne avec nous en direct. Et bien sûr, vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Lewis, vous êtes à Lubumbashi, en RDC.
Oui, bonjour.
Un de vos enfants a redoublé, c'est-à-dire que cette année, il redouble sa classe, hein, c'est bien cela?
Oui, bien sûr. Je voudrais donner mon avis par rapport au redoublement scolaire. Selon moi, il ne doit pas être vu ou vécu comme un traumatisme, mais plutôt une seconde chance qu'on donne à l'élève pour pouvoir s'améliorer par rapport aux lacunes que l'élève a sur certaines connaissances.
Et vous, qu'est-ce que vous observez concernant votre enfant? Est-ce qu'il travaille mieux cette année, ou il redouble, ou il fait la même classe pour la deuxième année consécutive?
Oui, il redouble, mais comparativement à l'année passée, il est en train de s'améliorer. C'est vrai que l'amélioration, c'est un travail qui prend du temps. Et c'est comme ça que les résultats aussi doivent prendre du temps pour se faire vraiment constater ou palpable.
Mais vous avez changé votre enfant d'école pour le faire redoubler ou pas?
Non, je n'ai pas changé d'école. Plutôt, il est resté dans son école de l'année passée.
Et les autres parents autour de vous, comment réagissent-ils quand on leur annonce que leur enfant doit redoubler?
Bon, là, ça dépend. Il y en a qui voient ça un peu mal. Pourquoi? Bon, beaucoup plus pour deux plus grandes raisons majeures. La première, c'est la question qui est liée au temps. Autant je vois l'âge, hein. Il y en a qui disent, mais mon enfant doit finir à l'école secondaire à 17 ans.
Eh oui, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent,
oui,
c'est bien ça.
L'argent. Oui, ça, c'est le premier aspect. Mais de l'autre côté, il y a un problème de moyens, surtout quand on scolarise son enfant dans une école privée. Là, les frais sont plus élevés comparativement à une école publique. C'est comme ça qu'ils ont du mal à pouvoir accepter que leur enfant redouble des classes. Alors, ils préfèrent l'amener dans une autre école pour qu'il puisse passer dans la classe supérieure.
Ouais. Et donc, vous êtes à l'école de la patience avec votre enfant, Lewis?
Oui, je suis à l'école de la patience, parce qu'en tant que parent, moi, je comprends qu'on n'étudie pas pour avoir le diplôme, le papier ou par rapport au temps, mais on étudie pour acquérir des connaissances qui vont vraiment servir à l'enfant à être utile dans la société.
Eh bien, merci en tout cas pour cette sage analyse. Lewis, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, Jonathan Dupin et Benoît Galland? Parce que pour les parents, ce n'est pas si évident que cela d'être à l'école pour apprendre. On est plutôt à l'école pour avoir des diplômes et réussir professionnellement.
Oui, c'est sûr que votre premier auditeur évoquait du coup les mesures administratives qui étaient prises, hein, pour limiter le redoublement. Rapidement, sans avoir d'éléments non plus systématiques, mais c'est sûr qu'on observe aussi une résistance au niveau des parents vis-à-vis de la réduction du redoublement, parfois parce que c'est aussi un gage de sérieux. De l'école dans laquelle on met ses enfants, voilà, c'est pas laxiste.
L'école est exigeante.
Voilà, c'est ça. Donc on a quand même ce phénomène d'un côté, et de l'autre, on a la difficulté de maintenir ses enfants à l'école longtemps. Effectivement, ça peut représenter un coût, que ce soit dans le privé, mais aussi dans le public, hein, puisqu'il y a un coût d'opportunité. Hein, l'enfant, surtout quand il est un peu âgé, pourrait faire autre chose. Dans ces cas-là, malheureusement, les parents peuvent avoir une résistance au redoublement. Et si le redoublement est maintenu, alors parfois les parents ou les élèves eux-mêmes décident juste d'abandonner.
Mmh. Vous parliez d'exigence, que l'école peut avoir une image d'exigence quand elle fait pas mal redoubler ses élèves. Il y a aussi beaucoup d'enseignants, et là je m'adresse à vous Benoît Galland, qui voient le redoublement aussi comme une menace efficace pour faire peur aux élèves, exercer une pression pour qu'ils étudient, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils fassent leurs devoirs, etc. Et qui disent, mais s'il n'y a plus la menace du redoublement, qu'est-ce qu'on a comme arme finalement, Benoît Galland?
Oui, mais c'est une bonne question et c'est une vraie question. C'est une question qu'on a souvent de la part des enseignants. Mmh. Et en même temps, comme on le disait en début d'émission, ben, en fait, il y a énormément de systèmes éducatifs où en fait, on ne fait quasiment pas redoubler. Et donc, la question se pose, ben, en fait, alors ils font comment dans ces systèmes éducatifs-là? Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a d'autres moyens de motiver les élèves. Mais c'est d'autant plus facile quand on ne les a pas habitués à la carotte et au bâton. C'est-à-dire quand ils ont été socialisés pendant des années et des années à l'idée qu'en fait, il fallait travailler parce que sinon, c'était la menace du redoublement. Et que tout d'un coup, on dit « Ah ben maintenant, on va moins faire redoubler ». Bon, c'est très compliqué de gérer la transition et le basculement. Donc, ça veut
un
dire
basculement qui apparaît comme laxiste, ce qui serait un peu le cas du débat en Belgique.
Exactement, dans ce cas-là. La question elle est, voilà, visiblement, il y a des enseignants qui arrivent à trouver des façons d'amener la matière, de présenter des défis et d'aller challenger les étudiants et les élèves pour que vraiment ils se disent, bah oui, ça a du sens ce qu'on fait là. D'ailleurs, on voit que des systèmes où il y a plus de redoublement, c'est pas nécessairement dans ce système-là que les élèves sont les plus motivés non plus.
Donc, il faut qu'on parle du coût budgétaire, hein, bien sûr, de ce que coûte pour les États, hein, tous les pays du monde, quand on redouble dans des écoles publiques et quand les États payent les enseignants, ça coûte de l'argent. Et en France, c'est valable aussi pour les écoles privées, puisque les écoles privées sous contrat, les enseignants sont rémunérés par l'État français. Un redoublement en France, c'est l'équivalent d'une année entière de scolarité, c'est-à-dire 9 000 euros en moyenne, hein, en 2021. Alors, est-ce que pour aider l'élève qui a des difficultés scolaires, est-ce qu'on peut faire mieux avec 9 000 euros que de faire redoubler? Est-ce qu'on peut faire plus efficace, selon vous, Benoît Galland?
Oui, tout à fait. Donc, c'est peut-être une des choses pour lesquelles il y a un débat sur le redoublement. C'est qu'en fait, c'est une décision assez radicale. C'est pas comme dire à un élève, maintenant tu vas aller à telle activité de remédiation ou maintenant tu vas être pris en charge dans tel groupe. C'est vraiment dire, ok, maintenant, en fait, tu vas recommencer toute une année scolaire. Donc, vous parliez du temps tout à l'heure, c'est quand même une question dans les témoignages aussi. Voilà, et souvent, ça a un coût. Ça a un coût pour les familles éventuellement parce que ça rallonge la scolarité, ça a un coût pour la société. Donc, on voit que c'est quelque chose de très coûteux, en fait, le redoublement. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette mesure, elle fait autant débat parce que finalement, et qu'on doit se poser la question, est-ce que ça vaut la peine et est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec ça? Alors, les études ont l'air assez claires de dire, bah, en fait, en termes de rapport coût-bénéfice, oui, il y a beaucoup mieux et le redoublement est probablement une des façons les moins efficaces en termes de coût de gérer cette différence de niveau entre les élèves.
Les moins efficaces et les plus coûteuses. Revenir à plus de redoublements dans le primaire et dans le collège, hein, comme avait l'air de le dire le Gabriel Attal à l'époque où il était ministre de l'Éducation. Mais en tout cas, ça coûterait entre 1 et 2 milliards d'euros. Est-ce que c'est réaliste au vu du budget d'éducation qui est le premier budget de l'État et qui, pour la droite, est d'ailleurs suffisamment élevé pour des résultats médiocres, hein, dans les études internationales. Cette même droite, d'ailleurs, qui réclame plus de redoublements. Il y a quelque chose, finalement, d'un peu paradoxal d'un point de vue politique, non, Benoît Galland?
Oui, tout à fait. Et donc, vous l'avez très, très bien pointé. On est sur un double discours. À la fois, on veut plus d'efficacité. Et puis, toutes les études, elles nous disent, ben, en fait, et à coût équivalent, ou en étant plus efficient, c'est-à-dire en dépensant moins pour de meilleurs résultats. Et puis, toutes les études disent, en fait, finalement, si vous voulez vraiment augmenter le niveau, le redoublement n'est probablement pas le bon débat. Parce que, comme on l'a dit, ben, le redoublement, ce n'est pas ça qui, en termes de niveau scolaire, va agir là-dessus.
Ça serait plutôt des groupes de niveau, une meilleure formation des enseignants, etc.
En tout cas, il vaudrait mieux mettre l'argent là-dedans, c'est clair, de nouveau. Voilà. On n'est pas sur le bon débat si vraiment la finalité... Alors, si la finalité elle est politique et de faire de la musculation et dire on va être sévère, on va être exigeant, alors on peut parler du redoublement. Si vraiment l'intention, c'est d'augmenter le niveau, on n'est pas sur le bon débat. Ouais.
Jonathan Dupin, en raison des coûts budgétaires, est-ce qu'il y a une pression des bailleurs de fonds sur les systèmes éducatifs en Afrique francophone, justement, pour qu'il y ait moins de redoublements, comme ça a été le cas au Sénégal, hein, qui a nettement diminué son nombre de redoublements, mais on voit que par exemple en Côte d'Ivoire, selon les régions, on a encore des taux qui peuvent être absolument monumentaux.
Alors oui, tout à fait, le redoublement est présenté uniquement, je dirais, comme un gaspillage de ressources. Là, on prenait l'exemple, vous parliez tout à l'heure de taux de redoublement de 30% au Burundi, donc les diagnostics qui sont menés par les coopérations internationales et les acteurs nationaux des systèmes éducatifs présentent qu'un taux de redoublement de 30%, c'est un quart des ressources budgétaires qui sont gaspillées, sans qu'on à aucun moment indiqué qu'il y aurait une partie de ce redoublement qui serait nécessaire. Si on prend par exemple au Sénégal, on a des choses intéressantes, par exemple avec l'enquête, le PASEC, qui est l'équivalent un petit peu du PISA dans les zones francophones, on a 20% des élèves à qui on demande de redoubler qui en fait se situent dans la moyenne en termes de compétences mesurées par le test.
Donc c'est du redoublement abusif.
Oui, on en a même un peu moins de 10% qui sont plutôt dans la tranche supérieure des élèves qui réussissent.
Donc, ce que nous disait l'enseignant ivoirien, qui nous disait que dans sa classe, il avait des élèves qui n'étaient pas du tout au niveau, en fait.
Bon, alors 20% plus 7% qui sont au-dessus, ça veut dire qu'il y en a 70% qui sont en dessous de la moyenne, quand même, de cela. Et puis, alors la question aussi peut se poser autour de la manière d'évaluer les élèves par les enseignants, par les écoles. Et ça, c'est toute une technique.
Mais ça veut dire qu'il y a globalement un consensus entre les bailleurs de fonds et les politiques publiques des ministères de l'éducation dans les pays d'Afrique francophone pour accepter l'idée que le redoublement n'est pas la bonne solution et que ça coûte beaucoup trop cher pour ces pays-là.
Certains financements internationaux sont conditionnés à la réduction du redoublement. Par les systèmes éducatifs mesurés par les statistiques des
carrément
des ministères.
Conditionnés, c'est-à-dire
il y a des parts.
Vous avez le financement si vous diminuez le taux de redoublement.
Il y a des dynamiques de financement basées sur les résultats dans la coopération internationale aussi, et le taux de redoublement est un des indicateurs pour pouvoir déclencher ces financements-là assez appréciés par les bailleurs de fonds.
Vous nous appelez au 33-7 64 45 51 41. Je vais lire le message de Bouna, qui est directeur d'école privée à Nouakchott. On passe le bonjour à tous les voisins qui nous écoutent à Nouakchott et ailleurs en Mauritanie. Le message de Bouna, il nous dit, le redoublement, c'est la règle en Mauritanie, mais beaucoup de parents ne comprennent pas comment continuer à payer pour des enfants qui redoublent. Donc, sous-entendu, ça crée du découragement et du décrochage scolaire. Moi, nous dit Bouna, j'ai vu des élèves qui ont traversé leur crise de puberté avec beaucoup de difficultés, qui sont devenus d'excellents et d'excellentes élèves. Conclusion, il faut parler à l'élève, il faut surtout l'écouter. S'il risque de perdre toute motivation, alors on peut le faire passer dans la classe supérieure. S'il est ouvert, s'il comprend, si on sent sa détermination, là, on peut envisager le redoublement. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Benoît Galland ?
Alors oui et non, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'en fait le débat autour du redoublement, il est plutôt de savoir dans quelle mesure on l'utilise. Il n'y a aucun chercheur par exemple qui dit qu'il faut interdire le redoublement. Ce n'est pas ça l'idée, c'est une stratégie qui doit être disponible. Mais on voit bien que ça commence à poser problème quand on l'utilise massivement. Et donc ici, on est, la difficulté aussi, c'est tout, on a souvent cette idée que dire on va voir dans quel cas ça pourrait marcher ou pas. Mais là, en tout cas, comme scientifique, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé. Pour l'instant, on n'a aucune idée. On ne peut pas déterminer à l'avance pour qui ça pourrait éventuellement être bénéfique et pour qui, éventuellement, ça ne va pas fonctionner.
On ne sait pas exactement quels sont les facteurs du bon redoublement, finalement, du bien redoublé, c'est ça
Exactement, ouais. Et on voit bien, et comme se rejoint complètement le témoignage qui a été donné, parce que là, on a surtout parlé des résultats pour l'instant, des résultats scolaires. Mais par contre, là, les études sont assez claires sur le fait qu'à moyen terme, donc à plus long terme, on a des effets négatifs sur les parcours scolaires, donc notamment le décrochage, comme vous l'avez mentionné, mais aussi, par exemple, les choix d'options ou les choix de poursuivre ou non de ces études que les élèves vont faire, et qu'on voit qu'en fait, malheureusement, les élèves pour lesquels on a pris une décision de redoublement, mais en fait, on diminue un peu leur chance après de faire un parcours d'études qui est plus porteur.
Merci à vous, Benoît Galland. Vous restez avec nous. On donne la parole dans quelques secondes au psychologue Ibrahima Girou, qui est à Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Bonjour Ibrahima Girou.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous vos éditeurs.
Vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Vous travaillez en ce moment d'ailleurs sur la santé mentale à l'école et dans la communauté avec le ministère de l'Éducation du Sénégal. Pour vous, le redoublement est un phénomène qui est relativement encore quand même banalisé. Néanmoins, il convient de bien comprendre le vécu de l'enfant. Dites-nous un peu quelles sont vos recommandations.
Oui, tout à fait Emmanuel. Disons qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'intéresse à la signification du redoublement, au vécu de l'enfant et qu'on puisse identifier des pistes de solutions pour prévenir non pas le redoublement, mais ses probables impacts négatifs sur le bien-être et le développement de l'enfant. Parce qu'en fait, redoubler une classe, ce n'est pas du tout perdre une année.
Pour vous.
Ensuite, oui, tout à fait, ce n'est pas perdre une année, c'est une classe simplement qu'on reprend. Ensuite, comment est-ce qu'il faut comprendre quand les enseignants proposent un redoublement en fin d'année? Quel sens est-ce qu'il faudrait donner à cela et quel sens l'enfant donne à ce redoublement? Et cela ne signifie pas que l'élève n'a pas le niveau de l'année écoulée. C'est surtout que l'on pense qu'il aura du mal à progresser et à s'épanouir si on le laisse passer en classe supérieure.
Mais est-ce que c'est vraiment bien établi qu'un enfant qui n'a pas le niveau une année donnée ne réussira pas si on le laisse passer en classe supérieure? Ça, c'est votre point de vue de psychologue.
Mais disons qu'il n'y a rien de moins évident dans la réalité que cette conclusion qui semble tout à fait logique hein, sur le papier. En pratique, on revient aux difficultés scolaires qui sont dans une grande partie, dans la majorité des cas peut-être même, qui ont des causes autres que les aspects purement pédagogiques. Par exemple, les conflits dans la famille, les divorces, les phobies scolaires, vous savez, les moqueries, les méchancetés parfois entre enfants, peuvent très bien expliquer les mauvaises notes chez un enfant. Ça, c'est quelque chose. Ensuite, les difficultés scolaires peuvent bien coexister avec d'excellentes notes, ce qui signifie que l'enfant paye un prix élevé pour avoir et garder de bonnes notes sans que personne ne s'en rende compte à l'école, en tout cas au bon moment. Donc, selon moi, les parents et les autorités qui nous écoutent doivent repenser en profondeur la place de l'école et qu'on puisse se dire assez clairement qu'on ne naît pas pour aller à l'école. Ce n'est pas le but de la vie que d'aller à l'école. Donc, cela signifie aussi qu'il faudrait, à côté de l'école, que l'on puisse inventer et valoriser des millions d'autres façons, voyez, d'acquérir de la connaissance utile pour soi et utile pour la communauté, Emmanuel.
Mais alors, comment s'assurer, Ibrahima Girou, que le redoublement, s'il est inévitable, reste bénéfique malgré tout, en tout cas qu'il n'ait pas d'impact négatif dans la vie de l'enfant?
Vous me permettrez de jouer avec les mots. Je dirais que les solutions sont dans le redoublement. Donc, l'enseignant doit redoubler d'ingéniosité pour faciliter l'acquisition des compétences chez les enfants. Les parents, à leur tour, doivent redoubler de vigilance et d'humilité aussi et arriver à se demander s'ils n'ont pas, d'une certaine façon, une responsabilité à quelque niveau que ce soit dans les difficultés scolaires de leur enfant. Parce que la difficulté, on l'a déjà dit, elle est complexe. La société, elle aussi, doit redoubler de bienveillance et cesser de regarder le redoublement comme une sorte de maladie mentale. Parce qu'en réalité, encore une fois, redoubler une année, ce n'est pas du tout perdre une vie. Donc, dans ces conditions qui sont réunies, l'enfant pourra à son tour maintenant redoubler d'efforts et en fin de compte, le redoublement aura servi à quelque chose pour tout le monde.
Merci à vous, Ibrahima Girou, psychologue, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal. Un mot de réaction, Jonathan Dupin. Redoubler, ça n'est pas perdre une vie, mais tout de même, on a bien entendu quand même durant toute cette émission à quel point le redoublement soit n'était pas efficace, soit était mal vécu, soit qu'il y avait plein d'autres moyens. Et c'est peut-être là-dessus qu'Ibrahima Girou nous dit, c'est à l'école de redoubler de vigilance et à la société.
Oui, c'était intéressant. Il a été évoqué là le sens qui est donné par l'enseignant au redoublement. Et je crois que parler, questionner, réfléchir autour du redoublement, de manière plus générale, c'est questionner une vision qu'on a de l'apprentissage et du développement des enfants, des élèves. Et donc, voilà, il est intéressant quand des mesures sont prises par rapport au redoublement d'essayer de comprendre quelle est la vision qui est derrière en termes d'apprentissage et d'enseignement de manière plus générale.
Ouais. Eh bien, merci à vous, Jonathan Dupin, consultant spécialisé dans les systèmes éducatifs. Et vous êtes président de l'AFECTIS, une association qui regroupe des experts de la coopération internationale et de l'aide au développement. Merci à vous.
Merci.
Merci, Benoît Galland, d'avoir été en ligne avec nous de Bruxelles. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain.
Avec plaisir, belle journée.
Et merci à l'équipe. Juliette Bro, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac. Et toutes nos émissions sont à réécouter en podcast, bien sûr, disponible 24 heures sur 24 si vous avez pris l'émission en cours de route. Les voisins, surtout, vous restez sur RFI. Vous avez maintenant rendez-vous dans quelques instants avec l'actualité. Juste après notre choix musical et les sonorités reggae de Tiwani.
Rumors of war again. Bomba dropping at the town again. Blood a go running at the street again. Innocent people a go dead again. Aye. Rumors of war again. Bomba dropping at the town again. Blood a go running at the street again. Innocent people a go dead again. Troisième guerre mondiale, demande des programmes. Sous nos yeux, la planète sans femme. Des bombes qui pleuvent sur le macadam. N'est pas ni enfant, ni homme, ni femme.
No place and safe no more, ni Guada, ni Panam. Mais pression de déjà vu en Allemagne ou Vietnam.
Aujourd'hui, c'est la Russie, l'Ukraine, Gaza, Somalie. Le Tigre, le Mali, la CDA, on dans sa folie. Le temps, l'ONU joue au Monopoly. Bien sûr, le peuple, le qui est parti. Nous ne sommes pas confiés à la partie. Comme les deux vies, ont-ils anéanti.
Womans of war again. Bomba dropping at the town again. Blood a go running at the street again. Innocent people a go dead again. Aye, rumors of war again. Bomba dropping at the town again. Blood a go running at the street again. Innocent people a go dead again.
Aye. Le nouveau sous le soleil, toujours la même histoire. Guerre pour la part du gain, guerre économique. Guerre pour le pouvoir, guerre de religion, guerre entre politiques. Guerre pour des territoires, Babylone nous la met profonde. Nous la glisse comme un suppositoire. Corruption systématique, lavage de cerveau médiatique. Éducation ethnique sur la place publique, tout est stratégique. Une diplomatique, secret maçonnique. Intérêt géopolitique, Europe, Amérique, Asie, France, Afrique.
And we were with war. Bomba dropping at the town again. Blood a go running at the street again. Innocent people a go dead again. Aye, rumors of war again. Bomba dropping at the town again. Blood a go running at the street again. Innocent people a go dead again. Aye.
Y'en a foutu notre opinion. Toute la guerre apporte des millions. On lance des chairs à canon, damné de la terre France fanon. On ne compte plus les innocents, Babylone a des mains tachées de sang. Son système est oppressant, stressant, besoin d'évasion, je ressens.
War again, bomba dropping at the town again. Blood a go running at the street again. Innocent people a go dead again. Aye, rumors of war again. Bomba dropping at the town again. Blood a go running at the street again. Innocent people a go dead again. Aye.
Tell Babylon cease off the war.
Tell me some politician. Some of them corruption. What do they? Durande. Cisco. You don't know. Seven six.
Demain, 8 milliards de voisins, à quoi ressemble la rencontre amoureuse de 2024? Est-ce que tout se passe vraiment sur les applis numériques et ce catalogue infini de profils à tel point que souvent on a du mal à choisir? Et dans ce cas, si vous avez plus de choix, est-ce que vous avez vraiment plus de chances de tomber amoureux? On entendra bien sûr vos réactions, les voisins et les voisines. À demain!
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.